Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, place à un autre maître du manga. Après Yugo Ishikawa, voici l'un de ses anciens partenaires de studio, Naoki Urasawa. Pendant toute cette émission, nous allons parler de Monster, le manga Monster, un monument du manga, un must read, un manga qui doit être dans toutes les mangathèques. L'histoire du docteur Tenma, un chirurgien japonais dans l'Allemagne des années 80 qui un jour préfère opérer un garçon blessé d'une balle dans la tête plutôt que le maire de la ville. S'ensuit alors une étrange série de décès et, 9 ans plus tard, Tenma découvre l'auteur des meurtres, Johan, ce garçon de 10 ans qu'il avait sauvé. Il part alors à sa recherche pour l'arrêter et ça, c'est pour le pitch très rapide parce que le scénario est bien plus épais que ça. Monster, c'est donc un manga culte. Urasawa, Naoki Urasawa, c'est un auteur culte. Lui aussi, on vous renvoie d'ailleurs à plusieurs émissions qu'on a fait sur lui, mais aujourd'hui on va s'intéresser essentiellement au personnage qu'il a créé dans Monster. Et pour démarrer d'ailleurs, j'ai une petite question à ce sujet. À votre avis, qu'est-ce qui donne le plus de plaisir à Naoki Urasawa quand il dessine un visage?
Dessiner les sourcils.
Ok, pourquoi pas?
Moi je dirais l'aîné parce que voilà.
L'aîné.
Ouais, je vais dire l'aîné aussi parce qu'il a. Tu sens qu'il apporte un soin. Peut-être pas un soin, mais qu'il les dessine de manière différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est toujours des nez un peu aquiliens, je crois, on dit. Et j'ai l'impression qu'il prend vraiment son temps dessus.
Bah, pas du tout.
Si, je pense.
Non, c'est les rides. Il adore dessiner les rides.
Ah
des,
oui, mais comme
des
tous
visages.
Les dessinateurs. Tous les dessinateurs vont te répondre.
Ah, et tu fais des petits traits.
Exactement. On s'occupe du casting incroyable du manga Monster aujourd'hui. C'est parti. Pour la cinquième de coup.
On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards!
Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer l'anatomie du casting de Monster. Salut Robin, salut Julie, salut Cagnard.
Salut.
Salut.
Vous avez vu, pour une fois la phrase elle tombe pile. Hein. Découper, charcuter, dépecer et aimer l'anatomie.
Ouais,
ça marche.
Là, c'est...
Enfin.
On pourrait croire que c'est travaillé, mais...
Il a fallu attendre beaucoup de temps, mais ça y est, enfin cette phrase prend du sens avec cette émission. Si vous nous découvrez seulement maintenant, nous sommes donc la cinquième de couvre, le podcast manga hebdo depuis 10 ans maintenant. Scrollez un peu sur les applications podcast, il y aura toujours une émission pour vous, c'est quasiment sûr. Et merci à tous de nous écouter et de nous soutenir chaque semaine, d'écouter chaque émission. Et si vous aimez ce qu'on fait, c'est important, n'hésitez pas à la partager ou à laisser un commentaire ou une note. Merci pour tout et merci de votre fidélité. On parle donc de Monster aujourd'hui, Monster de Naoki Urasawa. Urasawa qui était à Amiens cette année, c'était au mois de juin. C'était chouette. J'ai passé 3 jours avec lui.
Enfin, en tête à tête.
Non, pas en tête à tête. En gros, j'ai fait tous les événements publics dans lesquels il était pendant 3 jours. J'ai passé un week-end à Amiens, en Picardie.
On appelle ça un stalker. Mais ok.
Tout à fait.
Si on retire l'aspect juridique, t'es juste un fan passionné.
Ouais, mais on m'avait donné les endroits où être, tu vois.
Oui,
j'étais bien informé.
On te les avait donnés ou tu les avais vraiment utilisés aux gens?
On ne le saura jamais. Urasawa qui a déclaré pas mal de choses et tout ce qu'il a pu dire dans les différentes conférences, interviews, etc. On va la réutiliser dans cette émission. Par exemple, pour commencer au sujet des personnages, il a déclaré qu'il aimait dessiner les gens ordinaires qu'on ne voit habituellement pas dans les mangas. Au supermarché, j'observe les gens, dit-il, et j'essaie de mémoriser leur visage pour les dessiner après. J'aime bien l'esprit.
Oui, et puis ça se ressent en fait dans son manga. Et c'est marrant parce que là, moi j'ai... Comment dire ? Appliquer le filtre Urasawa dans le métro. Je me disais, ah lui, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ah, cette vieille dame, qu'est-ce que ça pourrait donner avec son style? Ce serait sympa comme exercice, tu sais.
Et auditeur amiénoise, sachez que vous avez peut-être pu croiser Naoki Urasawa dans un supermarché à Amiens, ce qu'il a vraiment demandé aux équipes des éditions Kana à aller dans un supermarché.
Oh, c'est son
Donc
kiff,
il, a,
en fait.
Il a allé au rayon légumes, il a allé au rayon, il a allé à la caisse, il a fait la caisse automatique, tu sais, la libre service.
Bah après c'est un kiff, je trouve, dans un pays étranger d'aller dans un supermarché. Moi j'avoue que je le fais à chaque fois parce que c'est toujours marrant de voir les différences et tout.
Ça et regarder la télé.
Dans un supermarché.
Encore plus, ça c'est bingo.
Non, tu vas dans le Darty de l'étranger pour regarder
ah bah oui, voilà.
Le truc qui passe à la télé.
Ah, c'est ça.
Et non, mais en plus, il a vécu en France quelques semaines, jours, Naoki Urasawa, où il avait vraiment un appart ou un truc comme ça, quoi. Et donc, au bout d'un moment, il savait dire une demi-baguette, s'il vous plaît. Et il était super fier quand la boulangère prenait la baguette et la coupait en deux. Ouais, elle m'a compris.
Achievement.
Non mais c'est fou à quel point il a voulu vraiment s'immerger dans la culture française et tout, c'est assez marrant. Je ne sais pas s'il fait la même chose avec les autres pays, peut-être que comme n'importe quel rockstar dans chaque ville, il dit « j'adore Paris !» Mais en tout cas, il a l'air d'avoir un lien très, très proche avec la France, ce que je trouve toujours c'est sympathique, quoi.
Après, à Londres, il n'a pas pu trop demander de baguettes. Moins de boulangerie.
Un bagel, tu vois, c'est la même chose.
Un half bagel.
J'essaie de dire half bagel maintenant.
Dans cette émission, on va donc parler des personnages principaux, bien évidemment. On va parler du traitement que Naoki Urasawa utilise sur ses personnages, sur ses récits, enfin sur ce récit dans Monster. Mais on va surtout commencer par les personnages secondaires. Parce que ça, c'est très, très, très riche chez lui. D'autant plus dans Monster, les personnages secondaires. Donc, pour commencer, quel est celui dont vous avez envie de parler? Robin, on va commencer avec toi.
Bah, moi, le premier qui me vient, ce qui n'est pas forcément le plus évident, parce qu'il arrive assez tard dans l'histoire, mais c'est Grimmer, donc Wolfgang Grimmer, qui est un personnage qui arrive... Alors moi, je vais parler en édition courante, on ne va peut-être pas tous parler en termes de tomaison du même.
Ouais, il y a deux éditions, voilà. Il y a l'édition normale en petit, puis il y a l'édition intégrale en grand.
C'est ça, et moi, j'avais l'ancienne édition en petit, et il arrive vers le tome 10, je crois, un truc comme ça. Et c'est un personnage qui, au début, nous est présenté comme un journaliste qui, en gros, enquête sur un certain nombre de choses, et donc c'est en gros son le sujet de ses articles, ou en tout cas ses enquêtes, vont l'amener à s'intéresser un peu à l'affaire Tenma et Johan. Et en fait, petit à petit, apprend beaucoup plus de choses sur son background, sa personnalité, etc. Et moi, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup dans cette histoire, parce qu'il a vraiment une espèce de contraste en lui, parce qu'on va se rendre compte assez rapidement qu'il porte à l'intérieur de lui une espèce de construction mentale à la Jekyll et Mr. Hyde, où en gros, on sait, il parle d'une espèce de personnage de série télé qui est un super héros qui aide la veuve et l'orphelin, qui s'appelle Magnificent Steiner. Et en gros, on commence à capter petit à petit que c'est une espèce d'autre personnalité qu'il a en lui, parce qu'il a un background lié au 511 Kinderheim, et il a aussi une enfance un petit peu compliquée qui fait qu'en gros, quand il est soumis à un stress ou à de la colère extrême, il a son espèce de deuxième personnalité qui s'exprime, et il devient une espèce de bête furieuse qui massacre les gens autour de lui, quoi.
C'est Hulk.
Ouais, exactement, c'est un peu Hulk, mais c'est vrai qu'en termes littéraires, c'est vraiment la construction de Jekyll Mr. Hyde, sachant qu'en plus, quand il est vraiment dans sa forme gentille, il est vraiment très gentil, quoi. C'est vraiment un gars hyper souriant, en plus il a une espèce de physique très grand, très dégingandé, il émane tout de suite de la sympathie, quoi. Il y a vraiment, c'est un personnage qui est immédiatement sympathique, et du coup le fait qu'on sache qu'il a cette forme d'ombre en lui, ça rend ça encore plus puissant. Et je trouve que voilà, malgré le fait qu'il arrive très tard dans le récit, il est extrêmement attachant extrêmement vite, et en plus il a une fin vraiment très très émouvante. Et vraiment, moi, c'est le genre de perso, si j'écrivais, j'adorerais écrire un perso comme ça, quoi.
C'est encore un enfant à problème. Enfin, c'est le premier. C'est le premier enfant à problème de notre liste. Mais c'est marrant comment tout tourne, mine de rien, dans Monster, autour de l'enfance et de ce moment où il y a quelque chose qui a craqué chez les personnages, et de la manière dont on a pu complètement transformer des enfants en autre chose, voire des armes parfois.
Ouais, mais lui, ce qui est chouette, c'est que tu vois vraiment qu'il utilise cette douleur et cette souffrance pour en faire quelque chose finalement de positif. Il veut vraiment devenir quelqu'un de bon, et il est quelqu'un de bon, quoi, au fond.
Et dans l'histoire de la pop culture, les orphelinats allemands de la Seconde Guerre mondiale, ouais, c'est un terreau inépuisable. Tu peux tellement faire de choses à partir de juste ce petit élément de scénario-là, quoi.
Mais encore un journaliste. Mine de rien, Urasawa ne fait jamais de mauvais journalistes. Ils ont toujours j'ai l'impression que c'est qu'il a, il a de l'admiration pour, comme il peut parfois mettre en scène des mangaka, par exemple dans The Century Boys. Le poste de journaliste, tu sens que lui, il lui accorde une valeur vraiment particulière, quoi. Limite artistique, mais c'est des découvreurs de vérité.
Bah, vous vous souvenez du premier journaliste qu'on voit dans Monster? Celui qui clope tout le temps.
Oui, bon,
ouais, c'est ça, bon, qui finit mal, hein. Ouais. Mais j'adore aussi ce personnage.
Il a l'air pas sympa, alors que finalement, il est super cool.
Julie, c'est qui que tu donnerais en premier, toi?
Moi, je dirais, donc avec l'accent, Hugo Bernhardt, parce que pour vous remettre les idées, c'est un ancien militaire apparemment français, Et il vit dans la forêt avec une petite fille birmane qu'il a adoptée. Et on apprend au fur et à mesure que, en fait, c'est lui qui a causé le malheur de cette petite fille, puisqu'il a été obligé de tuer sa mère pendant un combat. Et en fait, voilà, sa pénitence, c'est d'élever cette petite fille qui ne lui parle pas, qui ne sourit pas. Et pendant quelques mois, il va entraîner Tenma, parce que Tenma, il arrive et il sait très bien qu'il va vouloir prendre les armes et aller mettre un terme à tous les massacres que Johan organise, quoi. Et moi, j'aime beaucoup ce couple, en fait, qui est complètement déséquilibré, parce que il y a vraiment ces deux personnages qui sont mutiques, et donc il y a très peu de texte, et tout passe par le dessin, par les émotions qui les traversent, les moments qu'ils vont partager petit à petit. Et vraiment, c'est un casse-tête comme toujours, parce qu'il y a tellement de personnages à choisir que... Alors moi, j'ai appliqué cette méthode qui est, une fois la lecture terminée, de fermer les yeux et de se dire « Ok, quel est le premier visage qui va apparaître ?»
Et c'est lui qui est apparu.
Et c'est lui, ouais, qui est apparu. Et je pense qu'en fait, même quand je ne lis pas Monster, enfin pendant des longues périodes, en fait, il reste assez présent dans mes souvenirs.
C'est quoi le plat ? Il n'y a pas un plat qu'elle
fait ? Si,
qu'elle
en fait, non, c'est que... Tenma, pour changer un peu des plats, lui propose donc un plat japonais. Il fait un nikujaga et il a lui-même taillé des baguettes dans des morceaux de bois. Évidemment, donc Hugo, il ne sait pas s'en servir. Et la petite fille commence à se dérider, à apprécier, manger avec lui, etc. Donc, je veux dire, c'est à la fois tellement triste et tellement choupi. Et c'est rare d'avoir des moments quand même très attendrissants dans cette série, donc je pense que ça lui donne vraiment une saveur particulière.
Moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il fait partie de ce que j'appelle les spécialistes des personnages de Urasawa. Enfin, quand je dis spécialistes, c'est des professionnels, et c'est des professionnels à qui on a retiré toute humanité, et du coup, Urasawa, il réussit toujours à aller chercher cette humanité, parce que mine de rien, c'est un trope qui est assez connu, c'est un peu Léon, tu vois, c'est le tueur avec la petite fille, mais il arrive toujours à t'extraire vraiment de la sève sentimentale de ce genre de profils qui sont totalement différents. Le professionnel et sa victime, où il est toujours question beaucoup de culpabilité chez Urasawa, et c'est un des exemples justement de la culpabilité.
La suite de cette liste de personnages secondaires marquants, c'est avec Dieter, mais avant je voulais vous donner un petit extrait aussi de ce que Naoki Urasawa a déclaré quand il était à Amiens. Il a dit: les personnages évoluent d'eux-mêmes, ils prennent leur vie en main, j'ai l'impression moi d'être là pour veiller sur eux de manière bienveillante. Dès que je les crée, ils ne m'appartiennent déjà plus. Je suis convaincu que lorsque les personnages n'écoutent pas et qu'ils n'obéissent pas à l'auteur, c'est là que le manga devient intéressant. J'adore ce genre de réflexion.
Bah surtout que là, il y a plein de persos qui font pas du tout ce qu'il a demandé.
Ça a l'air tellement schizophrène le rapport de l'auteur avec ses personnages.
Après, je me dis toujours qu'il y a toujours un petit peu de storytelling dans tout ça. Je pense qu'il y a aussi un côté assez pragmatiquement lié au fait comment un manga est publié. C'est-à-dire que c'est un feuilleton et à un moment donné, forcément, tu mets en place des choses sans forcément avoir en tête très précisément ce que tu veux en faire. Et je pense que c'est ça qui devient ce truc. Ah, ce personnage-là m'a échappé. C'est juste qu'en fait, ton histoire, elle est allée plus loin que ce que tu pensais. Et au final, tu vas devoir faire quelque chose, peut-être, de ce personnage-là que tu n'avais pas prévu. Et ça en devient hyper intéressant, parce que forcément, ça les rend d'autant plus imprévisibles ou plus humains aussi, quoi. Parce qu'un humain, en général, on n'est pas des robots. On ne sait pas trop comment quelqu'un peut réagir non plus, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Ouais, mais l'exercice, il est d'autant plus difficile dans le sens où il met énormément de personnages secondaires.
Bah là, ouais.
Et donc, ils prennent tous vie. Moi, j'y crois parce que, je veux dire, il y a vraiment des persos que tu vois pendant 3-4 chapitres et après tu les vois plus, et pourtant dans ton sentiment de lecture t'as l'impression que la vie continue pour eux quand même, tu vois. Donc je veux bien y croire, même si je suis d'accord avec Robin que cette phrase on commence à l'entendre de plus en plus souvent.
Les personnages m'ont échappé,
ouais, voilà, ils parlent d'eux-mêmes et tout ça, oui, mais on aime bien y croire quand même, mine de rien, à cette petite histoire.
Bon, ça nous fait plaisir, c'est clair. Dieter, donc, avant de parler de Dieter, il a aussi déclaré ça: pour moi, les enfants et les personnes âgées occupent une place un peu en marge de la société, on les met souvent de côté, on les écoute moins, alors qu'à mes yeux, c'est justement là que se trouvent les vérités les plus profondes et les choses essentielles. Est-ce que ça, on le retrouve dans Dieter, Robin ?
Bah, clairement, ouais, Dieter, pour moi, c'est vraiment l'un des personnages les plus touchants du manga. Bon, déjà, il a une vie pas facile non plus, hein. C'est encore un enfant qui a souffert. Et en plus, on le découvre dans le manga pris un peu en emprise dans une relation complètement toxique et malveillante avec le mec qui s'occupe de lui. Qui est,
ouais, c'est ça.
Qui
est on le découvre père, mais... très tôt, Dieter, et c'est un personnage secondaire slash semi-principal.
Ouais,
quoi.
Carrément. Et en fait, moi, je trouve que c'est clairement un des personnages qui est tout le temps un peu là. Mais bon, forcément, c'est un enfant, donc il n'est pas acteur de tout ce qui se passe. C'est des choses qui le dépassent un petit peu. Mais il est tout le temps là. Et puis vraiment, il est aussi souvent là dans des scènes qui sont très émouvantes. Moi, franchement, la première scène où il décide de suivre Tenma contre son gré, parce que Tenma lui dit non, je ne peux pas te garder. Je suis poursuivi et tout. Et qu'il continue à le suivre. Enfin, c'est une des scènes les plus touchantes du manga. Moi, franchement, j'ai toujours ma petite larme à chaque fois quand tu vois la bulle de Tenma qui dit non, arrête de me suivre, Dieter et tout, et que l'autre, il continue à le suivre. Enfin, c'est vraiment une scène poignante. Et je trouve qu'après, il prend vraiment sa place en tant que garant un peu de l'humanité des personnages qui sont autour de lui, parce qu'il est toujours un peu dans la bande des gentils, quoi, la bande des héros. Mais c'est des héros qui, comme ils sont confrontés à des situations difficiles et qui sont eux-mêmes pris de contradictions entre justement l'ombre et la lumière, toujours les choix qu'il faut faire, le bien, le mal et tout, et bah, je trouve que Dieter, il est toujours un peu là pour dire « Non mais si, le bien, c'est ça, et moi, avec mon innocence d'enfant, je vais te rappeler à l'ordre. » Et je vais te rappeler qu'il ne faut pas que tu te perdes là-dedans, il faut que tu continues à être le bon Tenma que moi j'aime, quoi, par exemple. Et moi je trouve que c'est un truc qui est très fort. Et surtout après, bah, je trouve ça cool aussi par rapport à la citation que t'as faite de Urasawa. Parce qu'il a, à un moment dans l'histoire aussi, il construit un duo hyper intéressant avec ce fameux Leichwein, qui est donc le vieux. Le coup, quand tu disais, on prend jamais au sérieux les enfants et les vieux, bah Leichwein, c'est plutôt le vieux. Et je trouve leur duo fonctionne super bien. C'est un peu le sage, quoi, quelque part, qui, pareil, un peu lui aussi, rappelle un peu les héros à la raison, mais plus avec son côté adulte qui en a vu et qui sait, qui comprend un peu la psyché humaine et tout. Et puis j'aime bien comment sa maison devient le sanctuaire un peu des gentils, où là où ils vont se retrouver, où ils vont préparer leur plan pour aller combattre Johan et les sbires de Johan et tout. Et je trouve que malgré tout, Urasawa l'a pas borné dans un rôle de gentil papy, le Leichwein, tu vois, il a vraiment ce côté, c'est aussi un gars qui sait se défendre, quoi. La première fois que tu le vois...
On lui tire dessus,
il envoie une tasse d'eau bouillante à Robert et un personnage très intéressant dont on parlera après. Mais voilà, c'est aussi, la première fois que tu le vois, tu le quittes, il est en sang, quoi. Il s'est battu contre tout le monde et tout, alors qu'il a vraiment le physique de petit papy gentil. Petit papy gentil, mais faut pas trop lui souffler dans les bronches non plus, quoi.
Ouais, c'est le prof Ochanomizu de Urasawa, c'est ce personnage avec un gros nez qui est là pour veiller sur Atom dans les mangas de Tezuka. Bah, moi, je trouve qu'on le retrouve beaucoup dans ce personnage.
Mais t'as toujours une affection particulière aussi pour les personnages plus âgés.
Ouais.
En général, non ?
Non, mais là, je trouve qu'en fait, ce qui me plaît, c'est que c'est vraiment le duo qui forme avec Dieter, qui lui, il est inverse, c'est un personnage jeune. Et en gros, c'est comme dit Urasawa, c'est des personnages qui normalement sont un peu sur la touche des histoires, parce que soit ils sont trop vieux, soit ils sont trop jeunes, donc ils peuvent pas être impliqués vraiment en tant qu'acteurs majeurs de l'histoire. Et en fait, chacun de leur manière, ils vont quand même permettre aux héros de finalement accomplir aussi leurs objectifs sans se perdre. Parce que voilà, c'est aussi une des grosses thématiques de Monster, c'est poursuivre le monstre, combattre le monstre sans en devenir un soi-même. Et c'est ces deux personnages-là qui vont en général être le socle qui va leur permettre de ne pas se perdre. Mais chacun, voilà, à leur manière. Et du coup, c'est assez amusant qu'à la fin de l'histoire, ils forment vraiment une espèce de duo. Tu vois, c'est vraiment son parrain, quoi. Leichwein, d'une certaine manière, Dieter, et ça fonctionne super bien, quoi.
Julie, tu as choisi encore un autre personnage que Leichwein ou Dieter, tu as choisi Guylaine.
Oui.
C'est quel personnage ça, Guylaine ?
Rudy, de son petit nom. Eh bien, c'est le spécialiste des psychopathes et il interroge des prisonniers pour faire des profils psychologiques. Et c'est en fait un ancien camarade de classe de promo de Tenma. Ils étaient à la même université. Et il a une espèce de méfiance terrible parce qu'il pensait que Tenma l'avait grillé pendant les examens en train de tricher. Et que du coup, il le méprisait, lui qui était si brillant, etc. Et bien
oui,
sûr,
il est même un peu jaloux, quoi.
Ouais, complètement. Et ce que j'aime bien dans ce personnage, bah, c'est que c'est aussi le troisième larron du socle des gentils, puisque avec le docteur Leichwein, je suis désolée, je vais écorcher son nom tout le temps, avec Dieter, Rudy Guylaine, en fait, c'est celui qui incarne en fait l'homme mûr, on va dire, mais qui est là pour être allié de Tenma et qui va devenir vraiment un allié puissant, au sens où il a du potentiel, il a du pouvoir, il peut actionner des leviers que d'autres n'ont pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se met pas en avant, il est très discret, il fait partie de ces personnages que moi j'oublie régulièrement, parce qu'on oublie qu'il est là, et il s'efface complètement face à son travail, son devoir, et c'est vraiment un personnage qui a une trajectoire assez étrange finalement, parce qu'il connaît beaucoup de choses, il connaît beaucoup de monde, mais... Il y a d'autres personnages dans cette saga, comme, je sais pas, Martin, dont on parlera plus tard, ou des couples de vieux touristes comme ça qui viennent et qu'on oublie parce que peut-être ils sont clés à un moment de l'histoire, mais malgré tout, ils ont tendance à s'effacer face à d'autres personnalités plus, peut-être plus fortes. Quoi.
Bah c'est sûr que si on faisait le classement popularité des personnages, je suis pas... Alors... Non, il me va version shonen, tu sais, avec les gens qui vont être en ligne. Je suis pas sûr que Guylaine arrive dans le top 10.
Ouais, après, parce que c'est vrai qu'il y a, je dirais qu'il y a deux types de personnages secondaires. Il y a les bons et les mauvais. Non, pas du tout. Non, mais il y a ceux qui, effectivement, comme dit Julie, sont là juste à une séquence très précise de l'histoire et disparaissent, ou sont après évoqués. Et il y en a d'autres qui apparaissent, qui disparaissent, qui reviennent, qui redisparaissent, etc. Et Guylaine, c'est vrai qu'il est un peu dans cette position de... Il est toujours un peu là... Mais juste, il arrive des fois quand on a besoin de lui et il fait quand même toujours partie du bon camp et c'est intéressant aussi.
Et puis, c'est une des premières personnes que Tadma arrive à convaincre aussi. Et
oui, c'est ça qui est très intéressant.
Il y a vraiment le côté caution scientifique de « Ok, moi, je suis un de ses collègues, j'ai un avis rationnel et a priori, factuellement en tout cas, Tenma n'est pas coupable. »
Sachant qu'en plus, son avis rationnel prend le pas sur l'avis qu'il pouvait avoir de Tenma, qui était justement un mec qui ne l'aimait pas vraiment subjectivement par rapport justement à la jalousie et le fait qu'il avait l'impression que Tenma le méprisait. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ce retournement encore plus. Quoi.
Ouais, moi j'ai à chaque fois ce truc avec Tenma, je ne peux pas m'empêcher de le rapprocher un peu de Naruto, tu vois, parce que c'est vraiment le mec, alors plus il avance, plus il réussit à convaincre les gens, alors sans se taper souvent, mais il arrive à les convaincre et à les amener de son côté. Et c'est Mouloud Achour, je crois, qui disait que le pouvoir de Naruto, c'est qu'il était capable de devenir ami avec tout le monde. Et il y a de ça chez Tenma, je trouve. Même ce mec qui devait le détester et tout, il se rabaisse pas. Mais quand il lui dit... parce qu'il y a cette conversation où il lui dit « Mais j'étais sûr que tu m'avais vu tricher et tout. » Et Tenma lui répond « Bah oui, mais c'est parce que je trichais aussi, en fait. » Et je trouve qu'il a vraiment ce côté très humain. Et t'as un vrai miroir avec ce personnage de « Mais non, je suis pas un super-héros. En fait, je suis un humain à qui il arrive une énorme galère.
» On continue sur les personnages secondaires. Et le prochain personnage dont tu voulais parler également, Julie, c'est Yarumi Lipski.
Oui, c'est le marionnettiste qui n'a pas de succès quand il apparaît dans la série. Mais c'est
on
celui...
est à quel moment de l'histoire de près, pour resituer
au milieu je dirais qu'il arrive vraiment aux alentours du tome 5 peut-être 6 et en fait pour les versions doubles pas ceux qui étaient en tome 5, pardon. Mais en fait, c'est intéressant parce que c'est un personnage, encore une fois, comme disait Robin, on se dit « Ah, il va être important à ce moment-là. » Et en fait, il revient petit à petit. Il connaît des choses. Il connaît la Villa des Roses qui va devenir importante après dans le développement de l'histoire. Il a un passé qui est finalement assez trouble parce qu'on découvre au bout d'un moment que c'est le fils du fameux Franz Bonaparte qui est l'instigateur de cette immense machination étrange. Et en fait, moi, je le classerais dans ces personnages qui se cachent derrière des alter-égos. Parce qu'il y en a beaucoup en fait dans ce manga. Il y a énormément de personnages qui ont plusieurs vies, plusieurs noms, plusieurs personnalités.
Grimmer dont on parlait au tout
début.
Voilà,
exactement, c'est l'exemple. Et il y en a plein d'autres. Il y a le grand financier Schuwald qui cherche son fils. Il y a l'auteur des livres, justement, Franz Bonaparte. Il a une multitude de pseudonymes. On ne sait pas vraiment qui il est. Est-ce qu'il existe vraiment? Il y a cette espèce de personnage un peu inquiétant du papy de l'orphelinat de Prague. Moi, comme ça, parce que on sait pas, justement, lui aussi, il a fait partie de ces gens qui ont tenté des expériences dans ces orphelinats un peu chelous. Et puis, il y a des gens qui reviennent avec une autre personnalité, avec d'autres idées, avec du repenti, beaucoup. Et ça, c'est toujours très intéressant.
On a un autre personnage qui est extrêmement intéressant, c'est celui qui s'appelle Robert. D'ailleurs, Urasawa en a parlé quand il est venu à Amiens, il a dit à la fin, attention spoiler, hein. De toute façon l'émission est full spoiler, hein, vous inquiétez, si vous avez prévu de d'écouter tout sans vous faire dévoiler quoi que ce soit sur Monster, c'est mort. Hein. Donc Robert, à la fin, il meurt dans un combat contre l'inspecteur Runge. On ne connaît pas vraiment son passé, à part qu'il vient d'un pays qui a disparu. Et en réfléchissant à cette scène, je me suis soudain rappelé, dit-il, d'un autre personnage, Grimmer, qui vient du même orphelinat, et Grimmer avait évoqué un ami d'enfance qui aimait beaucoup le chocolat chaud. Alors, je suis allé relire cette scène et j'ai regardé la page où il parle de cet ami. Et là, j'ai vu que j'avais dessiné un autre visage d'enfant à l'époque. Et sur le moment, je me suis dit « Ah non, dommage, c'est pas Robert, je vais pas pouvoir faire de lien entre les deux, j'ai dessiné quelqu'un d'autre. » Mais en y regardant de plus près, en fait, le visage ressemblait énormément à Robert. Donc là, je me suis dit « Mais voilà, c'est Robert. » C'était déjà lui, je l'avais dessiné sans m'en rendre compte. Et c'est dans ces moments-là que je me dis que c'est vraiment passionnant de faire du manga. J'adore le storytelling d'Urasawa.
Oui, mais je ne savais en fait, c'était lui. Et moi, ce que j'aime beaucoup, Robert, c'est vraiment un perso hyper intéressant dans Monster. Moi, pour moi, c'est vraiment le boogeyman par excellence. Quoi. C'est le mec, quand il arrive dans une scène, tu sais que la tension monte d'un cran. Il dégage vraiment cette espèce de violence froide. Vraiment violence absolue. C'est le mec, quand il est là, il a toujours une espèce de petit sourire en coin. Mais en même temps, tu sens qu'il est dangereux, quoi. Et en plus, je trouve le pire, c'est qu'Urasawa l'a en plus rendu un peu libidineux. C'est le seul mec, tu le vois, il a des scènes de cul avec Eva, avec d'autres personnages là. Et tu sens même dans ces scènes-là et tout, qu'il est dégueulasse, qu'il a un truc un peu, tu vois, dangereux, animal, tu vois, vraiment, mais sourd, tu vois, en lui. C'est pas un truc qu'il va forcément projeter immédiatement.
Ouais, mais le fait même qu'il l'ait dessiné comme ça, ça veut dire qu'il l'apprécie pas tant que ça.
Mais non, mais.
J'avais cette sensation-là.
Après, je pense qu'en fait. Quand t'es auteur, t'adores les méchants que tu crées, quoi. Et je trouve que ce mec-là, il a vraiment, c'est vraiment l'archétype pour le coup du monstre. Tu vois, le titre du manga c'est Monster, mais Johan évidemment ne ressemble pas du tout à un monstre. Lui, c'est vraiment l'inverse. Il a vraiment ce truc, mais il est très dangereux, quoi. Il a vraiment un côté, c'est impitoyable. Enfin, genre quand il arrive, tu te dis mais comment je vais pouvoir m'en sortir si ce mec-là me pourchasse, c'est mort, quoi. Je vais jamais y arriver, quoi. Et c'est vraiment pour moi ce truc dans un film d'horreur, ce serait vraiment le boogeyman, quoi. Le mec qui te poursuit, qui te lâchera jamais, quoi.
Bah, en fait, ce qui est intéressant avec Robert, c'est qu'il a de la prestance malgré tout, et il a une carrure, il a du charisme, mais à tout moment, il peut faire volte-face et là, c'est fini pour toi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des personnages, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent avoir différentes facettes et comme ça, jouer sur leurs différentes personnalités. Mais à l'inverse, il y a aussi des personnages qui ne maîtrisent pas bien ce genre de retournement. Et donc, je pensais par exemple à un personnage qui apparaît vraiment à la fin dans l'avant-dernier arc, on va dire, de la série, qui s'appelle Mylène Collache, et qui est en fait un dentiste, mais qui habite dans les quartiers pauvres, dans les quartiers turcs, qui sont en train d'être démolis par les extrémistes de politique.
Donc méchant, tu penses dentiste?
Bah non, ça se vaut, moi je suis d'accord. Bah non, parce que lui, il essaye d'être méchant, alors que sa maison, c'est l'auberge espagnole. Il a recueilli d'autres voisins à lui qui sont en train d'être dégagés de ce quartier. Donc il y a une espèce de bonne entente entre tout le monde, alors qu'ils parlent pas les mêmes langues et qui sont de cultures très différentes. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça reflète aussi cet aspect très ovni de ce manga, parce que Urasawa, il s'est éclaté à faire toutes les personnalités possibles. Il y a vraiment, si c'est en Allemagne, enfin en tout cas en Europe, dans une période où il y avait aussi déjà beaucoup d'immigration, etc., c'est pas pour rien. Et je pense qu'il a vraiment pris plaisir à essayer de représenter toutes sortes de diversité, de physionomie, de corpulence. Et ça se ressent dans ce genre de scène, quoi.
Et a priori, c'est graphique, parce que ça aussi, il en avait parlé. Il a dit « Les visages japonais sont plus plats, donc c'est difficile d'y donner une expression pour moi. Alors que quand je fais des occidentaux, je peux être beaucoup plus audacieux. »
Faire des gros nez, par exemple.
Non, mais c'est marrant aussi d'avoir ce regard de dessinateur en fait, sur des choses que nous, on va intellectualiser de manière politique, sociétale et ainsi de suite, alors que c'est d'abord un concept de dessinateur.
Ouais, et puis je pense même de caricaturiste quelque part. Il est vraiment dans cette espèce de, en quelques traits, ah bah cette personne, elle est asiatique. Ah bah cette personne, elle est plutôt turque. Bah. Et il va jouer sur quelques petits trucs. Et évidemment, il va leur donner de la personnalité au-delà de leur nationalité ou de leur culture, quoi.
Oui, mais c'est aussi parce qu'il est dans un souci de représentation assez réaliste finalement, caricaturiste dans le sens effectivement il va pousser les traits physiques et tout, mais c'est quand même finalement il a une représentation relativement réaliste des personnages, là où généralement le manga c'est vrai que la représentation des personnages est complètement imaginaire entre guillemets, c'est des personnages qui n'ont pas de nationalité en général quand tu lis des mangas qui se passent pas en tout cas dans un contexte réel. Les personnages n'ont pas de traits particuliers, ni asiatiques, ni occidentaux. Et lui, c'est vrai que là, il est dans un souci d'être quand même dans un contexte réaliste, de représenter une réalité aussi sociale, culturelle, etc. Donc il faut forcément utiliser cette représentation graphique pour montrer tout ça, quoi.
Parlons d'Eva aussi un instant. Premier personnage féminin qu'on découvre dans ce manga.
Ouais, j'avoue. Et moi, j'avoue, Eva, c'est un personnage un peu... c'est très ambivalent mon ressenti sur ce perso parce que je trouve que vraiment, à la relecture, ça m'a frappé. Elle incarne vraiment cette espèce de cliché de fille à papa, vénale, en plus alcoolique et tout. Enfin, je sais pas, je trouve
c'est pas flatteur.
Il y a une espèce d'image très, très peu flatteuse de ce qu'est un personnage féminin et le fait que ce soit le premier personnage féminin qu'on découvre dans l'histoire, je me dis waouh, à la lecture post-MeToo c'est un peu compliqué quand même de recevoir ça, tu vois, de la part d'un auteur dont on sait en plus qu'il est capable d'écrire des super personnages féminins.
Et quand on la revoit 9 ans, enfin même 9 ans et demi après, en
bah,
plus...
elle est pas beaucoup mieux. Enfin, non, franchement, moi je trouve que je continue à penser que c'est vraiment pas son personnage féminin le plus inspiré. Mais par contre, elle a quand même malgré tout, c'est là où il y a quand même du génie chez Urasawa, c'est qu'il arrive quand même à en faire quelque chose, à lui donner une vraie trajectoire. Pas de rédemption forcément parce que bon c'est juste qu'elle va finalement réussir à s'accomplir, à en tout cas sortir de sa souffrance. En plus, c'est vraiment, là encore une fois, dans l'ère post-MeToo, le côté, en fait, elle ne se définit que par rapport à Tenma, tu vois, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'existence, sa souffrance est liée au fait que Tenma l'a rejetée. Tu te dis, bon, bah en fait, tu peux aussi exister pour toi-même, enfin, je sais pas. Mais je trouve que finalement, il arrive quand même à en faire quelque chose, et notamment, je trouve, grâce à l'arc qu'elle a avec Martin, le personnage dont parlait Julie juste avant, qui est Bruce Willis à mes yeux. Je n'imagine pas un autre acteur jouer ce personnage.
Avec la voix française.
Voilà, exactement. Et je trouve que voilà, la relation qu'elle a avec ce personnage de Martin et cette petite histoire, qui n'est pas finalement si longue dans le manga, mais elle a vraiment quelque chose de très, très fort. Et encore une fois, Martin est un personnage qui, en très peu de place, finalement, a une trajectoire assez folle. Et je trouve que c'est ça qui va finalement donner à Eva sa rédemption, entre guillemets, et au final sauver le personnage, si je puis dire, parce que c'est vrai que ça partait pas gagnant, quoi.
Bah, disons qu'il faut la garder quand même ce personnage, parce que je pense que symboliquement elle représente la bourgeoisie, parce que c'est vraiment l'opposition du début du manga, c'est-à-dire le petit médecin japonais face à la haute autorité de la direction. Donc au début c'est son père qui utilise qui a ce rôle-là, mais elle en prend la suite, et au final tu comprends bien que elle redécouvre son humanité, tu vois, quand au final elle perd à peu près toutes ses richesses, bah c'est là qu'elle commence à devenir de plus en plus humaine. Donc oui, c'est toujours un peu caricatural, mais comme tu dis, il lui offre quand même un arc, pas de rédemption, mais un vrai arc narratif entier, quoi.
Pour conclure cette partie sur les personnages secondaires, dernière phrase de Naoki Urasawa, il a dit: c'est dur de donner des expressions différentes à plusieurs personnages, mais sur un même plan.
Bah, je trouve la phrase est intéressante parce que c'est vraiment un défi qui s'est donné dans ce manga. C'est, on l'a dit, j'ai pas du tout d'éléments chiffrés pour comparer, mais je pense que c'est le manga où il a mis le plus de personnages, honnêtement. Ou en tout cas, à qui il a donné le plus de place à autant de personnages. Et vraiment, le fait qu'il ait fait ça dans un manga où c'est quand même un manga où il y a assez peu d'action, c'est quand même beaucoup des enquêtes, des gens qui se parlent dans des bureaux ou dans des endroits où c'est du champ contre champ. Et il arrive quand même à faire de ça un truc vraiment rythmé, et du coup je trouve que bah clairement oui, je me doute bien que c'est pas facile quand tu fais juste parler des mecs dans des bureaux, que de leur donner des expressions différentes et de les faire réagir alors qu'ils sont juste en train de parler d'un plan ou d'une enquête ou d'un truc, tu vois. C'est
bah d'où les subterfuges, genre le journaliste avec la clope,
ouais,
tu
voilà
vois.
Et dans le cinéma on sait très bien qu'il y a plein d'artifices pour donner du rythme dans tout ça. Tu fais bouffer tes persos, tu leur fais boire du café, tu leur fais faire des trucs. En manga, tu peux le faire aussi, mais c'est vachement plus compliqué parce que tu es sur de l'image figée, quoi. Donc il faut réussir à créer ce rythme, et il y arrive merveilleusement, quoi.
Passons maintenant donc de manière plus globale au traitement que peut avoir Naoki Urasawa et comment il représente ces personnages. Pour en parler, je voulais encore vous donner une autre citation. La façon dont il fonctionne, en tout cas, pour créer ces personnages, il nous a dit: même si je ne raconte pas tout dans mes mangas, dans ma tête, je construis le CV de chaque personnage. D'où il vient? dans quel milieu, dans quelle famille il est né, quel a été son parcours. Je peux pas tout décrire dans l'histoire, mais j'essaie au moins de faire sentir que chaque personnage a vécu avant d'apparaître sur la page. Je veux que derrière chaque rencontre entre deux personnages, le lecteur ressente qu'il y a tout un vécu. Et je trouve qu'il y arrive vachement bien.
Je préviens, Robin n'a pas aimé cette phrase.
Pourquoi ?
Ça correspond encore au storytelling de Urasawa.
Non, alors j'allais rebondir dessus.
Après, on réécrit en français, il le dit en japonais, tu vois.
Oui, ça sonne mieux.
Non, mais j'allais rebondir justement en disant, moi, c'est un truc qui m'a vraiment surpris en le relisant, c'est que t'as vraiment l'impression que c'est un manga qui est construit comme une série télé, mais post, tu sais, âge d'or des années 2000, fin 90 et tout, alors qu'il est vraiment contemporain de ça. Il a vraiment été écrit à ce moment-là, donc on peut pas dire que Urasawa était spécifiquement inspiré par, je sais pas... Les Sopranos ou Lost ou 24 heures, tu vois. Et tu vois, genre, dans l'audiovisuel, ce que tu dis, le truc de on construit un CV à chaque personnage, on crée. Ça, ils ont le loisir de le faire parce qu'ils ont plusieurs auteurs, ils ont du temps, ils ont machin. C'est mais ça. Lui, ouais, ça va, tu dis, mais à quel moment t'as eu le temps de réfléchir à tout ça et de construire toutes les informations sur ces personnages, sachant qu'à la lecture, t'es persuadé qu'il l'a fait, parce que honnêtement, je te dis, le fait qu'en quelques cases, il y ait la vie d'un personnage qui soit écrite, ça veut dire forcément il y a pensé, qu'il a imaginé plein de trucs dans le détail et tout. Et je trouve que donc ça, c'est hyper impressionnant. Et
attends, je reviens sur ma marotte du journaliste qui clope. En fait, on le voit pas, il est là. Hein. Deux chapitres ?
Un peu plus, peut-être.
Open plus ?
Oui, peut-être trois.
Ouais, alors on sait qu'il rentre pas chez lui, qu'il travaille trop, qu'il sent mauvais, qu'il est divorcé, qu'il clope, qu'il essaye de récupérer. On sait tellement de choses, on sait tellement de choses en peu de chapitres, bah, alors qu'il y a toute l'aventure qui suit, quoi.
Richard Brown, là, le détective privé, là même, t'as un chapitre sur lui, et le gars, tu sais qu'il était alcoolique, qu'il a tué un gars, mais qu'en fait, finalement, c'est pas quand il était sous ébriété qu'il l'a fait, qu'il voit plus sa fille. Enfin, t'as vraiment tellement d'infos sur ce mec, alors que. Il t'aura juste servi à faire une mini enquête de détective privé à un moment donné sur Johan, ce qui va donner quand même beaucoup d'infos au personnage plus tard. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment cette richesse dans l'écriture et dans la composition des personnages. Et en même temps, tu sens qu'il sait aussi composer avec les limites du manga. C'est quand même finalement un truc où t'as pas tant d'espace que ça pour raconter des choses. C'est pas un roman, tu vois, tu peux pas faire des lignes et des lignes de description, donc il faut aussi jouer avec l'image et trouver des astuces, des détails graphiques pour raconter par l'image des personnages. Et je trouve que là-dessus il est super fort, tu vois. Il y a vraiment des trucs genre Dieter, tu vois un petit gamin qui est en train de jouer avec un ballon, tu sais que c'est lui, tu vois. T'as pas forcément besoin d'avoir son visage super bien fait et tout dans une case. Si tu vois ça, tu sais que c'est lui, c'est sûr, parce que tu sais qu'il est fan de foot et que Tenma lui a offert un ballon et tout. Runge, il a un physique très, très particulier, mais le fait qu'il pianote avec ses doigts, c'est un petit truc quand même, tu vois. À chaque fois qu'il entre dans une scène, il dit qu'il a un disque dur dans sa tête et qu'en gros, il pianote avec ses doigts pour enregistrer les infos. Mais ça te permet en très peu de cases de raconter énormément de choses. Genre, moi, il y a un détail que j'aime beaucoup, c'est. Quand il rentre dans la première fois où il commence à se dire peut-être que Johan existe, je sais pas, mais visiblement il vit dans cette chambre et il rentre dans la chambre et là ses doigts ils pianotent pas. Et là tu dis oh putain, là c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est bizarre parce que normalement lui à chaque fois qu'il va quelque part il pianote, tu vois. Et du coup il dit direct genre il y a aucune trace, en fait j'ai rien à noter parce que c'est la première fois que je rentre dans une pièce. Et du coup je trouve que tu vois en deux cases il arrive à te faire capter que ce personnage-là a ressenti un truc et t'expliquer aussi, te mettre dans sa tête en montrant sa main, quoi. Enfin je trouve ça assez fou, quoi.
J'aime bien cette idée qu'il écrit les biographies de ses personnages, et je pense que si à la base il a fait ça parce que ça lui plaisait, parce qu'il avait besoin de ça, on va dire, pour assouvir son besoin de narration, ce que ça offre au final, c'est vraiment des transitions hyper malignes. Au lieu que, vu qu'on est dans un récit où il y a énormément de personnages, ça aurait pu être très très lourd que chaque personnage s'introduise. Vous avez les mauvaises manières d'introduire d'un personnage, genre oui je suis le fils du roi, pourquoi tu te définis toi-même, c'est bizarre, tu vois. Et justement par tous ces petits trucs, Urasawa il facilite l'entrée des personnages parce que t'as l'impression de les comprendre très très vite sans qu'on t'ait matraqué, tu sais, un petit carton en dessous du personnage, genre oui. Fils du directeur de je sais pas quoi. Et même si c'est parti peut-être juste d'un truc qu'il aime bien faire, je trouve que ça a vraiment fluidifié ça. C'est une de ses marques de fabrique, vraiment il est capable d'introduire de manière très discrète. T'as même pas l'impression qu'on te le présente, le personnage, tu le connais dès le début.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Je pense qu'une des clés du réalisme chez Urasawa, donc, qu'on disait tout à l'heure, la diversité, l'individualité des personnages. Et en fait, c'est même pas seulement des caractéristiques donc, par le dessin ou par leur mimique ou dans leur personnalité. C'est qu'ils ont des émotions. Tous les personnages arrivent effectivement avec un passé. et surtout un futur. Ils ont tous des envies, des besoins, des rêves. Dieter, il veut devenir un grand joueur de football. Eva, bah, elle voulait avoir une vie de princesse. Enfin, ils ont tous, voilà, ce moteur-là qui est commun à tous les humains, d'avoir des goûts, des dégoûts. Et c'est formidable d'avoir autant d'émotions parce que tous enfin, je pense que déjà tous les êtres humains sont traversés d'émotions, mais tout le temps, à chaque moment de leur vie, et il arrive quand même à retranscrire ça.
Et c'est très marrant parce qu'il le fait avec brio, parce que reprenons Dieter et partons du principe que c'est moi qui écris Dieter, moi qui n'ai pas son talent. Bah, c'est un gamin, il aime le foot. Ah, le foot, le foot, le foot, le foot.
Et t'as écrit Olivier Tom, quoi, direct, t'as écrit Tsubasa.
D'un coup, ça devient super naze.
Ah, bah, c'est moins intéressant.
Ne te sous-estime pas, Maxime. Je suis sûr que t'es capable de faire mieux que ça, quand même.
Mais du coup, c'est marrant de se dire, ok, il se dit, gamin, foot, ça marche, mais la manière qu'il a de l'écrire, c'est sa façon de le faire, de l'écrire, de l'amener, etc., qui fait que ça devient génial. Parce que si tu prends juste vraiment l'idée de base sur papier, oui, tu te dis, bon, oui, mais ok.
Tenma, il aurait pas supporté Tsubasa, tu vois. Vraiment, ne me suis pas vraiment. Retrouve Roberto. Moi, je cherche Johan. Toi, tu cherches Roberto.
J'ai trouvé Mark Landers.
Mais là aussi, où il est très fort, Julie parlait d'émotions, c'est justement aussi dans les visages de ses personnages, comment il va matérialiser les émotions. Et vraiment, pour moi, Urasawa, c'est le mangaka des gueules, quoi. Il a un truc, c'est un truc, on le sait. Enfin, déjà, ça fait partie des rares mangaka où tu vois un personnage, un visage de personnage dessiné par lui, tu sais que c'est lui. Mais parce qu'il a vraiment quelque chose dans son trait d'assez unique dans le paysage manga, un truc qui l'orne presque vers la caricature, je lui le disais aussi. On a parlé de ses nez en introduction, il y a vraiment un truc où il incarne ses personnages graphiquement de manière très très spécifique, et il en fait quelque chose vraiment très éloigné du manga, qui a un côté, on va dire, si tu caricatures ce qu'est le dessin manga, il est très très loin de ça, quoi, de vraiment l'image des visages anguleux, etc. Et il a vraiment quelque chose où moi je trouve c'est presque un truc franco-belge, quoi, dans sa manière de dessiner les persos. Bah, le gros nez, je suis désolé, c'est l'école franco-belge, tu vois, mais et on sait qu'il est fan d'Hergé, donc j'imagine qu'il y a aussi d'autres grandes BD.
Oui, mais il est aussi fan de Tezuka, qui aussi a fait des gros nez.
C'est possible, mais en tout cas, moi je trouve que ma sensibilité de lecteur, c'est que je trouve que il fait partie de ces mangaka qui sont les plus franco-belges du mangaka, dans cette manière de représenter les visages. Moi, dans les auteurs contemporains en BD franco-belge, il y a Sylvain Vallée qui est un peu dans cette veine-là aussi. C'est un auteur qui sait super bien rythmer ses histoires, il découpe merveilleusement et tout, mais il a aussi ce truc de son dessin, il est presque proche du dessin caricatural, mais parce qu'en fait, ça, ce fait de surappuyer des éléments physiques des personnages, ça te permet aussi de encore plus faire ressentir les différences d'émotions qu'ils peuvent avoir. Tu vois, genre vraiment quelqu'un qui a des traits assez gros, assez grossier entre guillemets, ou en tout cas exagéré, et bah dès qu'il va avoir une émotion, cette émotion va être encore plus perceptible pour le lecteur, et son changement d'émotion va être encore plus perceptible.
Et t'as vu comment il faisait aussi les figurants, ceux qui ont une ligne de texte, quoi.
Non, mais c'est ça, quoi, genre le moindre gars, il est là, le mec qu'il prend en stop en camion, qui lui file un sandwich, il existe, quoi, ce mec là il est peut-être dans trois cases du manga, et tu te dis, ah, il a l'air trop sympa ce mec et tout, j'aimerais bien boire une bière avec lui. Enfin, je sais pas, tu sais, c'est vraiment, il a vraiment cette capacité aussi de faire surgir l'humanité du moindre personnage mineur, tu vois, et de l'incarner en très peu de cases, quoi. Moi, il y a vraiment ce camionneur, le couple d'anglais, bon, ils ont un tout petit peu plus de place, mais que Tenma aussi rencontre. Enfin, tu vois, il existe ce couple, quoi, qui font. Bon, c'est des touristes, mais en fait, on comprend qu'ils sont là aussi pour autre chose. Mais il y a vraiment, c'est un tour de force, quoi. Il arrive vraiment à donner à tous ces personnages-là une existence. Et en plus, sur un support papier, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas, c'est vraiment assez ouf.
Et toi, Julie, t'avais aussi un autre regard sur l'action qu'ont les personnages sur la façon dont le récit est mené.
Oui, parce que c'est une façon, je trouve, qui est assez particulière, parce que on la retrouve quand même dans les récits de thriller, les récits d'enquête. C'est le fait de voir les personnages rebondir à chaque fois qu'ils ont une interaction. On leur typiquement, dès que la cavale de Tenma commence aux alentours du tome 2, eh ben, il va commencer à chercher des indices. Et à chaque fois, on va lui dire « Ah, monsieur Intel, oui, c'est vrai, il habitait là-bas. » Et puis monsieur Intel dit « Ah non, il a déménagé. Mais allez voir sa voisine, madame Machin. Peut-être qu'elle saura vous conseiller. » Et donc, c'est ce que moi j'appelle les petits cailloux C'est-à-dire que Tenma, il marche, en marchant, il tape dans des petits cailloux qui roulent. Et à chaque fois, ces petits cailloux, en roulant sur d'autres, vont créer de nouvelles interactions, de nouvelles péripéties, des nouvelles rencontres. Et je trouve que là, il le fait vraiment très bien, parce que ce qui est vraiment typique à Monster, c'est qu'il n'y a pas que Tenma qui est en train de marcher et de taper dans les petits cailloux, parce que petit à petit, on va se rendre compte que ben, on a placé certains cailloux là où ils devaient passer, parce que Johan est derrière tout ça et il manipule une espèce de grande machination contre lui pour qu'il soit accusé. Et c'est en ça que c'est passionnant également à analyser, quoi.
Ouais, et puis il y a un truc aussi lié à ce que tu disais sur le thriller, le genre thriller ou polar, tu vois. Il y a vraiment, je trouve aussi, cette volonté, j'en sais rien, mais en tout cas, on a vraiment l'impression qu'il respecte une espèce de cahier des charges du polar, tu vois, avec les personnages qu'il va montrer. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il y en a autant. C'est qu'on a un peu l'impression qu'il veut faire le polar total, quoi. Il veut mettre tous les types de persos et le type de profession qu'il y a liés à ce genre. Bon, t'as évidemment des flics, des gangsters, un avocat, psychologue, on en a parlé, criminologue,
journaliste,
détective privé, des prostituées,
des médecins, des enfants.
Et en vrai, tout ça, c'est des professions que tu vois toujours dans les polars. Mais là, il les a toutes mis dans un seul et tu dis, est-ce que c'est un cahier des charges? Est-ce que c'est un truc qui lui est venu naturellement? Mais je trouve qu'au final, il en fait pas que des personnages fonctions. C'est tous des personnages qui ont eu un rôle, mais qui ont une âme aussi, quoi. Et ça, c'est assez, assez impressionnant.
Ouais, mais sauf que si tu lui dis, Monster, ce polar, il va dire, moi, je fais pas de polar. Non, moi je fais pas de science-fiction non plus, Asadora, ça, pas de la science-fiction, non. Moi je fais du drame humain.
Ouais. Alors on avait déjà parlé de drame humain.
Exactement.
Ça veut dire tranche de vie.
Oui. Et en fait non, il le dit en anglais, il dit je fais du human drama.
Oui, c'est tranche de vie dans les catégories marketing des libraires japonais.
Game
marrant.
Of Thrones est un tranche de vie dans un
avec des dragons.
Avec beaucoup d'émotions.
C'est jouable.
Ça tranche de vie, ça c'est sûr.
Bah, moi ce que j'aime bien aussi c'est que finalement donc il y a le polar total, mais qu'est-ce qu'il y a tout en haut de la pyramide du polar total? C'est le monde de la politique. Et là,
c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Il y a aussi la politique.
Et la finance. Et donc, il a vraiment fait une espèce de scanner à 360 de tout ce qui allait pouvoir être crédible, apporter une assise à son univers. Et moi, ce que j'aime bien aussi, et je suis très, d'habitude, pas très sensible à ça, c'est aussi les références vraiment purement graphiques que tu peux avoir. Et il y en a une en particulier qui saute aux yeux une fois qu'on a pris conscience, c'est vraiment le personnage donc, de Jürgen, donc, qui est interrogé par le psychologue Rudy Gillen. Et en fait, bah, c'est Ed Kemp, c'est un tueur en série.
Kemper,
pardon. Et en fait, il a, je dis allemand, comment dire, germanisé. pardon. Mais en fait, ça se voit, sa posture, tout ça. Et vraiment.
On a tous vu Mindhunter.
Voilà, exactement. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il ne fait pas que utiliser cette référence culturelle. Il reproduit aussi certaines caractéristiques de ce tueur qui a existé, du coup. Et il l'utilise de façon très intelligente dans son récit. Et c'est là où, moi, je trouve que c'est brillant. C'est qu'il y a plein de moments où je me dis « Ah, mais comment savoir si tel personnage a vraiment existé? Est-ce qu'il y a vraiment eu le cast de telle année ?» Enfin, tu vois, et bien sûr que quand tu fais des recherches sur internet légères, eh ben tout te renvoie à un Monster et pas du tout à des choses, à des faits réels qui auraient pu être recoupés par lui ou comment dire, dans des faits divers qui sont oubliés de tout le monde maintenant, quoi.
Bah, il a même été embêté aussi pour un autre manga, par quelque chose qui s'était passé dans la réalité, qu'il avait décrit dans l'un de ses mangas. Ça le faisait pas de le passer à ce moment-là, donc il a dû retravailler un petit peu son récit. C'est pour dire à quel point il est capable d'être réaliste, quoi. Et il se fait même rattraper par la réalité. C'est le moment de passer aux personnages principaux. C'était difficile, hein. Difficile, Julie, de se dire, attends, est-ce que ce personnage-là, il est secondaire ou principal? On était vraiment...
Ben oui. Parce que moi, je passe mon temps, enfin, comme on disait tout à l'heure, y a des personnages qui arrivent, qui repartent, qui prennent de l'importance, qui deviennent attachants. Et donc, à quel moment est-ce que le commissaire Runge, eh ben, c'est un personnage de premier ordre, de deuxième ordre, ou le docteur Lechvain, que je vais enfin prononcer correctement, ou alors même Eva, des fois on se dit, bah, c'est une pauvre fille, elle va être vite évacuée. Et en fait, non, pas du tout, elle reste jusqu'à la fin. Donc moi, j'aime beaucoup les films choraux, les mangas choraux, parce que c'est très difficile à faire en fait. Et y a vraiment une générosité, un foisonnement de personnages. Et bah, la réponse à la question de qui est important, qui ne l'est pas, bah, c'est Tenma lui-même qui la donne. Il n'y a pas de vie plus importante que l'autre. C'est vraiment toutes les vies se valent et donc tous les personnages ne devraient pas subir notre châtiment d'être
secondaire ou principal. Ouais, bah on a fait quand même une liste de personnages principaux. Dedans, il y a Tenma évidemment, il y a Johan bien sûr, sa sœur jumelle évidemment, et puis on a mis Runge, fallait bien le mettre quelque part. il est arrivé ici. Donc terminons cette émission avec les personnages principaux. À ce sujet d'ailleurs, Urasawa nous a dit, je dirais que l'antagoniste pour moi est plus important que le protagoniste. C'est une question que je continue d'explorer, mais j'ai parfois l'impression que le personnage principal est en réalité le moins intéressant de tous. C'est peut-être pour ça que j'aime pas trop le docteur Tenma. Il lâche un truc quand même direct. J'ai toujours eu une grande affection pour les personnages secondaires. Je les trouve plus intéressants, plus originaux. Cela dit, c'est souvent difficile de construire une histoire entière autour d'eux.
Ce qui est marrant, parce que quand tu regardes Asadora, c'est l'inverse total. Il n'y a même pas d'antagoniste et il n'y a que une protagoniste qui est super. Enfin bref. Non, mais pour revenir à Tenma, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai vraiment l'impression, je reparle d'Hergé encore une fois, j'ai un peu l'impression qu'il en a fait son Tintin, tu vois. C'est son... Et c'est rigolo qu'il en ait fait un japonais, d'ailleurs, son personnage principal. Alors, est-ce que c'est des considérations éditoriales? Parce que voilà, son éditeur lui a dit, bon, quand même, pour le public, c'est mieux s'il peut s'identifier, donc fais-lui un héros japonais. Mais quand il dit plus haut que, enfin, plus ce qu'on a dit plus tôt, que en gros, il a du mal avec les visages japonais, parce qu'il sait pas leur donner de l'émotion, et enfin, il a plus de mal en tout cas avec les visages occidentaux. C'est drôle qu'il ait fait de son personnage principal un japonais, tu vois, genre tu avoues de toi-même que tu vas faire de ton perso principal un perso qui va pas avoir d'émotion, ou en tout cas que tu auras plus de mal à montrer. Et je dis que c'est une sorte de Tintin, parce que bon, déjà, c'est en fait, Monster, c'est certes un thriller, un polar, tout ce qu'on veut. C'est aussi une aventure. C'est un personnage qui n'arrête pas de bouger, qui n'arrête pas d'aller à droite à gauche, qui voilà, la théorie des petits cailloux. Il n'arrête pas tout le temps d'avoir des nouveaux indices pour aller ailleurs, etc. Donc c'est ça son côté Tintin. Et en même temps,
Tintin with a vengeance quand même.
Oui, bon, ça reste Urasawa, donc c'est un peu plus sombre que ça, mais c'est au fond de lui un être assez pur, tu vois, genre il est quand même habité par sa pureté de médecin, quoi, genre il arrive même pas à se convaincre lui-même, enfin il essaye de se convaincre lui-même qu'il est capable de tuer Johan, mais il y arrivera jamais, tu vois, c'est complètement hors d'atteinte pour lui, quoi. Et même physiquement, il a un côté, effectivement, il a un physique assez neutre, quoi. Il évolue parce que bon, des fois il a un peu plus de barbe, il a les cheveux longs et tout, mais globalement, à part quand il s'énerve, il a un visage quand même qui reste assez stable. Et on a vraiment l'impression qu'effectivement, au final, c'est un peu le pivot ou le véhicule de l'intrigue et qui est là pour la galaxie de personnages qui va graviter autour de lui. Parce qu'effectivement, il va avoir au final, c'est l'effet Naruto, des gens qui vont être aimantés par lui, qui vont l'aimer, qui vont l'admirer, etc. Et lui, au final, il veut pas de tout ça, il a un but qu'il arrivera jamais à faire parce qu'il est trop gentil, et au final il sert à ça, en fait il sert à amener dans son sillon toute cette galaxie de personnages, quoi.
On y reviendra par la suite, mais Tenma, il a une lecture d'homme nouveau. Enfin, pour moi, je trouve que 20 ans après que la série se soit terminée, on a une nouvelle grille de lecture. Parce qu'il y a cet angle que j'appelle l'angle de la violence en fiction, qui commence à être un peu plus exploré maintenant. Et on sait dès le départ que c'est le gentil. Mais pourquoi c'est le gentil? C'est parce que c'est lui, le docteur, qui est un sachant, qui a beaucoup de savoir, mais qui cède en fait à ses sentiments. Il cède à sa bonté, il cède là où on lit soit intransigeant, soit vraiment impitoyable, profite des richesses que les gens peuvent apporter ou pas. Et lui, on sait que dès le départ, il aura beau s'entraîner, s'endurcir, manier des flingues, il ne sera jamais admiré pour ça. Vraiment, la violence et Tenma, en fait, ça fait deux. Ça ne peut pas coller. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est son humanité, comme tu disais, Robin, qui va lui valoir vraiment le respect et l'amitié de tous ses alliés au fur et à mesure qu'il va rencontrer des gens. Et moi, je trouve que là où Urasawa il n'aide pas, c'est qu'il choisit quand même de le castrer symboliquement, puisque c'est vraiment un héros pur. Il n'a pas vraiment toutes ces histoires, en tout cas, c'est les histoires d'amour ou de sexe, c'est pas possible. Il n'est pas destiné à ça. Et vraiment, il y a cet aspect aussi pour Tenma en particulier, mais à peu près tous les autres médecins, il y a aussi l'idée d'entrer en médecine comme on entre en religion. C'est un sacerdoce et on laisse beaucoup de choses à la porte de sa vie privée, quoi. Et il y a aussi ce culte un peu du devoir, en fait, qui est mis en avant, mais pas de façon rébarbative. Et effectivement, c'est un héros qui peut-être paraît un peu trop lisse, mais peut aussi faire preuve d'une grande humanité, et ça va contrebalancer finalement cet aspect peut-être un peu trop parfait, un peu trop je ne me mouille pas qu'on va lui prêter au départ de l'histoire.
On continue dégrainer si on a fait tellement d'objets de faire Johan. Bon, Johan, on en a parlé beaucoup, 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 beaucoup. Urasawa disait à son sujet, je n'ai jamais dédicacé Johan en signature, en dédicace, parce qu'il doit être un bel homme et donc il me faut du temps pour le dessiner. J'aime bien cette idée.
Moi, j'ai toujours autant de mal à le comprendre. Je veux dire, j'ai jamais eu très peur de lui. Je pense que la scène la plus effrayante, c'est quand il est à Prague et qu'on le voit se démaquiller. Il est en robe et face à son miroir, et il comprend qu'il va pouvoir manipuler encore plus de gens en apprenant sur son passé. Mais voilà, j'ai du mal avec Johan.
Ouais, après, c'est le diable au visage d'ange. Moi, je trouve que c'est un contraste qui marche toujours très bien. C'est ce côté, effectivement, il est censé être bien sous tout rapport et visiblement, il ne l'est pas. Et d'autant plus dans le contexte qu'a choisi Urasawa, parce qu'on est quand même en Allemagne, post-chute du mur, enfin, ou en tout cas contemporain de tout ça. Il y a les résidus de l'extrême droite, donc forcément il a aussi ce physique très arien parfait qui correspond à tout ce qu'il y a de plus horrible dans ce que l'humanité a fait au final. Et du coup, j'aime bien aussi ce truc de quand on voit arriver cette espèce de faux Johan qui est le fils de Peter Chapek, ou en tout cas son espèce d'apprenti, qui est le même que Johan, mais en raté un peu, tu vois. Il est un peu moche, il est un peu moins intelligent, ouais. Il est méchant, mais moins fin, tu vois. Et je trouve que ça appuie encore plus le côté hors norme de Johan, quoi.
Johan, oui, qui est probablement le personnage le plus commenté, analysé des personnages d'Urasawa. D'ailleurs, à ce sujet, il disait, le moment le plus pénible dans ma carrière, c'est sans doute la fin de Monster. J'ai eu l'impression de mener une véritable interview avec Johan. Qui est-il? Pourquoi il agit ainsi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et je me posais ces questions dans une atmosphère très très lourde, c'était très dur. J'étais seul dans mon atelier et j'avais l'impression d'être entouré de cadavres. Mmh. Physiquement, j'ai commencé à en ressentir les effets, mes yeux, mon nez, mes oreilles, même mes dents étaient comme un peu enflées, mon visage était gonflé, sans défense. Et on peut le voir sur des photos de l'époque, c'est dire à quel point Johan était un personnage terrifiant.
Ouais, mais moi en termes d'écriture, bon là je vais faire un parallèle un peu osé, mais je le vois un peu aussi comme le requin dans Les Dents de la Mer, tu vois. C'est un peu ce perso, c'est la démonstration du fait qu'une menace n'est jamais aussi efficace que quand elle est dans l'indicible. Tu vois, Johan, on le voit pas beaucoup. On le voit pas beaucoup agir, en fait. On voit, il a son image de mec parfait, mais en fait, on le voit pas beaucoup. Et comme a dit Julie, on le cerne pas très bien, quoi, en fait.
On voit ce qui provoque chez les gens.
Et voilà, et c'est dans ce hors-champ, finalement, en fait, que la menace réside. C'est vraiment ce truc de... C'est pour ça qu'il fait peur. C'est parce qu'en fait, on sait pas du tout ce qu'il pense, on sait pas du tout ce qu'il veut, on sait pas du tout ce dont il est capable, au fond, tu vois. Et en fait, c'est ce côté insaisissable qui le rend encore plus terrifiant, tu vois. Genre, et en plus, tu rajoutes à ça son espèce de beauté hors norme, ça fait un espèce de cocktail très efficace.
Julie, un mot sur sa sœur jumelle ?
Bah oui, parce que franchement, elle aussi, elle est très intéressante à étudier avec notre regard de 2025. Parce que maintenant, on a les mots pour expliquer ce qui lui arrive. Parce qu'on a vraiment une démocratisation, je trouve, de ce vocabulaire-là. Et donc, à Nina ou Anna, ce qui lui arrive, c'est qu'elle a une levée d'amnésie traumatique. Elle a une charge mentale, émotionnelle énorme, au sens où elle a une responsabilité écrasante vis-à-vis de son frère. Et je trouve qu'il y a aussi une forme d'usurpation de ses souvenirs par Johan. Et elle se fait mansplainer par lui. Il est là genre non, moi je sais mieux que toi, mais c'est elle qui a vécu le truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc je trouve que Anna, elle est comme beaucoup de personnages féminins dans Monster, elle subit la violence masculine et en fait c'est son parfait jumeau qui va incarner cette violence masculine à son plus haut point.
Robin, un mot sur Runge maintenant.
Ouais, Runge.
On est graines.
Ouais,
hein,
bah oui,
vous
oui,
les
oui,
connaissez.
Ouais, c'est ça. Non, moi, ce que j'aime bien, et je rebondis sur ce que Cagnard disait un peu plus tôt, c'est que Runge, il est vraiment cet archétype du spécialiste, du professionnel. C'est vraiment un truc que j'ai beaucoup toujours apprécié dans les fictions. Michael Mann, qui est un cinéaste qui a fait Hit et plein d'autres super films, il est vraiment très fort là-dedans. C'est vraiment ce truc de. Il te montre des pros à l'œuvre. Et c'est toujours assez. Assez fou de voir des personnages comme ça interagir, sauf que là ce qui me plaît avec Runge, c'est que c'est vraiment un pro qui se trompe, quoi. C'est-à-dire que le mec, il est censé être infaillible, c'est le mec le plus fort, l'enquêteur le plus impitoyable, qui sait tout, qui a des données sur tout, mais il se trompe depuis le début et il y a que au tout dernier tome qui va dire à Tenma pardon, quoi, genre pardon, je me suis trompé, ça fait vraiment genre 18 tomes que je te poursuis et ça fait 18 tomes que je me trompe, quoi.
Et pour conclure cette émission, le mot de la fin est pour Naoki Urasawa. Pendant les 7 années que j'ai passé à créer Monster, j'ai cessé de me poser la question de est-ce que moi aussi je sauverais le monstre si j'étais médecin, et finalement j'en suis venu à cette conclusion, a-t-il dit. Oui, je pense que je le sauverais, je suis médecin après tout, alors je mettrai les gants et j'entrerai dans le bloc opératoire. C'est beau. Évidemment, une question qu'il a vraiment dû se poser et que énormément de journalistes ont dû lui poser à travers le monde. On avait encore beaucoup de choses à dire au sujet de ces personnages de Naoki Urasawa dans Monster, avec un casting absolument incroyable. Une heure, c'était évidemment pas assez. Donc, n'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux sociaux. On serait ravis de pouvoir continuer cette discussion avec vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine pour faire du shopping. Cette fois, ce sera beaucoup plus léger. Et n'hésitez pas à passer nous voir sur les réseaux sociaux. Ciao, salut, à la semaine prochaine.
Salut.
Salut.